Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal du soir de Radio Okapi dont voici l'essentiel. L'insécurité permanente et la violence récurrente dans la province de l'Ituri a fait flamber le nombre de personnes vivant avec handicap dans cette province. Du coup, l'Ituri continue d'entretenir en ce moment un programme provincial qui vise à atteindre et renforcer l'autonomie de 50 000 personnes de cette catégorie. À Saké, dans la province du Nord Kivu, la population appelle au secours. En effet, ces jours-ci, de nombreux cas de tueries, kidnappings et vols y ont été décriés. C'est dans un petit moment seulement que commence enfin la ruée de Fally Ipupa au Stade de France. Cette entre de plus de 60 000 places pour donner son premier jour de concert dont le dernier épisode aura lieu demain dimanche au même endroit. Un des mécènes de la RDC, admirateur de Fally Ipupa, nous rejoint dans un moment dans ce journal pour dire comment et pourquoi cet immense artiste de la République démocratique du Congo est aussi à ses yeux une merveille. Un plaisir une fois encore de vous retrouver. En Ituri, 50 000 personnes vivant avec handicap sont ciblées par un programme quinquennal de la division provinciale qui gère cette catégorie de vulnérables. Ce plan provincial vise à garantir l'intégrité physique et la dignité des bénéficiaires repartis dans les 5 territoires de l'Ituri. Objectif de cette démarche, les rendre utiles à elles-mêmes et à la société et renforcer la résilience de ces personnes en renonçant à la mendicité, Laetitia Viacuno.
Selon la division provinciale des personnes vivant avec handicap, les violences armées ont accru le nombre de personnes handicapées et des personnes déplacées qui sont dans un état d'extrême vulnérabilité. Ces plans visent donc l'autonomisation de ces personnes qui dépendent de la mendicité et des dons en apprenant divers métiers. Cette structure étatique sollicite l'appui du gouvernement provincial et de ses partenaires pour la réussite de ces projets qui visent à transformer le handicap en force de développement. Le facilitateur de ces projets, patient à l'IMA.
C'est un plan d'abord qui a la vocation provinciale et les autres partenaires peuvent intervenir pour le développement de ces plans ici.
De son côté, la représentante du gouverneur tire la sonnette d'alarme face aux discriminations persistantes de ces personnes. Elle appelle à une meilleure représentation de ces personnes dans tous les secteurs de la vie sociale et institutionnelle. Claudine Nzeni.
Les personnes vivant avec handicap doivent être partout représentées. Ici, nous voulons décrier la discrimination, s'autonomiser afin d'être bénéfique pour soi-même, pour sa famille et aussi pour la communauté.
Selon cette structure étatique, environ 85% des personnes vivant avec handicap dépendent encore de la mendicité et des dons. Bounia, Laetitia Viacuno, Radio Okapi.
La déclaration de recevabilité de la proposition de la loi sur l'organisation du référendum cette semaine à l'Assemblée nationale continue de faire réagir. La société civile Force Vive de la RDC exprime ses inquiétudes face à un contexte jugé particulièrement sensible. Dans une déclaration faite hier à Kinshasa, cette structure citoyenne redoute notamment que cette initiative ne ravive le débat sur une éventuelle révision de la Constitution de 2006 au risque de fragiliser les acquis démocratiques. Dans ce cadre, elle invite les députés nationaux à faire preuve de responsabilité afin de préserver l'unité nationale. On écoute Jean Bosco Lalo, son porte-parole au micro de Grâce Amzati.
La Constitution de 2006 encadre strictement le processus de la révision constitutionnelle. L'article 218 en définit la procédure, tandis que les articles 219 et 220 fixent les limites en précisant les matières non révisables, dont la forme républicaine de l'État, la durée des mandats présidentiels, l'indépendance de la justice, etc., ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une modification. Or, les discours de certains membres effrayants de l'Union sacrée laissent craindre une volonté de saper ces interdictions constitutionnelles. Dans le contexte actuel, marqué par l'occupation d'une partie du territoire national par la rébellion des FCM-23 et plusieurs autres groupes armés, envisager une révision ou le changement de la Constitution est périlleuse. Nous appelons donc les membres de l'Union sacrée à privilégier des initiatives qui renforcent l'unité nationale plutôt que celles qui divisent et fragilisent davantage la cohésion nationale.
Je vous l'ai annoncé il y a un instant au Nord Kivu. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans la cité de Sake, à environ 30 km de Goma, en groupement Kamuronza, dans le territoire de Masisi. Des cas de tuerie, kidnapping et vol se multiplient et inquiètent la population de Sake et ses environs, alors que la zone est sous occupation du M23. La population appelle les autorités compétentes à multiplier plus d'efforts afin de la sécuriser, elle qui vit en détresse et qui est depuis longtemps meurtri par les affres des guerres à répétition. Jean Gandou.
Le dernier cas en date est celui du meurtre d'une femme vendeuse de la viande de porc dans la nuit de vendredi à ce samedi par des bandits armés non autrement identifiés. Des sources dans la zone indiquent que ces assaillants ont fait une irruption dans sa maison vers 21h locale. Ces derniers l'ont amenée à plus de 50 mètres de son domicile et ont tiré sur elle à bout portant avant de se volatiliser dans la nature. Toujours selon nos sources, dans la même nuit à Sake, d'autres bandits ont aussi cambriolé dans le bureau de la sous-division de l'éducation Masisi 2. Ils ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment des kits informatiques et autres documents dont les bulletins scolaires. Dimanche dernier, plusieurs maisons ont également été visitées par ces hors-la-loi dans la cité de Sake. Dans le village de Kobe et Luonga, situé à 5 km de Sake, deux cas de kidnapping ont été aussi enregistrés. Face à cette recrudescence de l'insécurité, la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes et leur demande de renforcer les dispositifs sécuritaires pour mieux la protéger en cette période particulièrement sensible dans la zone.
Ici à Kinshasa, 4 présumés bandits ont été interpellés par la police nationale congolaise au lendemain du cambriolage perpétré à la cure de la paroisse catholique Saint-Théophile dans la commune de Kimbanseke. Selon des sources locales, un prêtre a été grièvement blessé lors de cette attaque armée. Le commandant du commissariat au quartier Biela plaide pour un renforcement des effectifs policiers, mais aussi des moyens logistiques, afin de mieux traquer ces hors-la-loi. Compte rendu de Blaise Ndongala.
L'insécurité demeure préoccupante au quartier Biela, dans la commune de Kimbanseke, qui a enregistré des attaques armées en l'espace d'un mois. La plus récente s'est produite dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, lorsque les hommes armés non autrement identifiés ont fait incursion dans la cure de la paroisse Saint-Théophile. Selon des témoins, ces assaillants ont grièvement blessé un prêtre catholique avant de prendre la fuite avec une somme estimée à 16 millions de francs congolais.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2h du matin, des individus non identifiés ont fait irruption dans l'enceinte, blessant un prêtre et plusieurs laïcs. C'est la deuxième irruption violente en moins d'un mois.
Face à cette situation, les commandants du commissariat du quartier Biela sollicitent un renforcement des moyens humains et matériels pour assurer la sécurité de la population de cette partie de la capitale. Gentil Wene Laïzo.
Oui, c'est le gouvernement qui sera capable de faire tous les loups, doter les armes d'État, les grenades, pour neutraliser tout ce qui passe ici. Les parents n'encadrent pas leurs enfants. Soit disant les fans de la maison, mais vers la nuit, il fait le débouclage à la maison quelconque.
L'ecclésiastique blessé a été admis dans un centre de santé de la place où il reçoit des soins appropriés. Une enquête est en cours afin d'identifier d'éventuels complices encore en fuite.
Kinshasa toujours est dans les quartiers Sikotra, Lokali et Muntele, dans la commune de Lancele. Les nuits ne riment plus avec repos, mais plutôt avec vigilance. Face à une insécurité grandissante, la nuit de jeudi à hier vendredi, les habitants ont décidé de veiller, de siffler et de faire du bruit pour dissuader des criminels. Une mobilisation nocturne qui traduit un ras-le-bol général et un cri d'alarme lancé aux autorités, accusées de rester silencieuses. Récit de Christian Makasinga.
Voilà. Sifflets, clochettes, marmites, ici, la nuit est tout sauf silencieuse. Les habitants occupent le rue, déterminés à s'y faire entendre. Lassés, ces riverains disent avoir tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, sans réponse concrète. L'un d'eux...
Nous avons décidé de passer une nuit dehors et de siffler et de faire beaucoup de bruit parce que nous avons constaté que notre cri d'alarme auprès des autorités n'a pas été entendu.
Face à cette situation préoccupante et à la montée de la tension, le bourgmestre de la commune de Nzélé assure que des mesures ont déjà été prises pour rétablir la sécurité.
Où il y a eu certains surchauffements entre les habitants des quartiers Sikota-Lokali ainsi les sinistrés Pakadjuma. Maintenant, on a déjà pris des dispositions sécuritaires et je travaille aujourd'hui, je prédis à 60% étant déjà des données de fruits. Il est question peut-être de patienter un peu et avec le temps, tout ça va prendre fin. La population, j'ai beaucoup plus apprécié leur système d'être beaucoup plus éveillé, vigilant.
Entre sentiments d'abandon et promesses d'intervention, la situation restait tendue en Célé. Si les autorités parlent d'un début de maîtrise sur le terrain, les habitants, eux, maintiennent la pression. Leur message est clair, sans résultat concret, la mobilisation nocturne pourrait se poursuivre.
Revenons dans la province de l'Ituri pour évoquer l'insécurité aussi. La coordination de la société civile alerte sur une recrudescence de l'insécurité, notamment dans le territoire de Djougou, où les groupes armés de la CODECO ont repris les violences, mais aussi l'extension de l'insécurité dans le territoire d'Arou. Cette structure fait état de dizaines de morts et d'importants dégâts enregistrés cette semaine dans la chaufferie de Mabinsa, outre les attaques récurrentes de la milice CRP et des ADF dans la province. Lors d'un point de presse tenu hier à Bounia, son coordonnateur appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces violences et éviter un retour au massacre du passé. Il demande également à la justice d'ouvrir des enquêtes afin que les auteurs de ces exactions répondent de leurs actes. Dieudonné Lossa est au micro de Laetitia Viakounou.
La sécurité est en train de s'étendre sur l'ensemble des provinces de l'Ituri. Le mardi, il y a eu l'attaque des CRP contre la position des FADC à Pimbo. Le même jour, les miliciens de CODECO, qui depuis un bon moment ont cessé de tuer la population, se sont encore de nouveau présentés dans le village Bassa où plusieurs personnes seraient massacrées. Il n'y a pas longtemps qu'on a déploré plusieurs dizaines de personnes massacrées par ADF et ses supplétifs à Mambasa. Et voilà, ça recommence avec CODECO à Djougou et à Arou. Déjà, cette criminalité est en train de faire peur. Nous voulons inviter les autorités provinciales du gouvernement central sur cette situation parce que nous ne voulons pas retourner dans les cycles de violence à province de. Nous n'avons plus besoin de revenir en arrière. Nous voulons également interpeller l'auditorat ou donc service de justice pour aller enquêter sur ces massacres.
L'insécurité est toujours, et dans la province du Nord Kivu aussi, le banditisme urbain prend de l'ampleur dans la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, 30 kilomètres environ de la ville de Beni. En l'espace d'une semaine, au moins 12 cas de vol, dont certains à main armée, ont été enregistrés dans différents quartiers avec des pertes d'argent et de nombreux biens matériels. Une situation qui inquiète les autorités locales et la population. Martial Papimukeba.
Dans un rapport transmis au bourgmestre de la commune rurale d'Ouicha, les chefs de quartier font état d'une situation sécuritaire jugée préoccupante. Ils évoquent au moins 12 cas de vol, dont certains à main armée enregistrés en l'espace d'une semaine. Les quartiers les plus touchés sont notamment Pakanza, Malaki, Mbimbi, Bakaïku et Masosi, où des malfrats ont emporté des biens dans plusieurs habitations. Le montant des pertes est estimé à au moins 2 000 $ américains. À Malaki, dispensaire figure parmi les cibles des cambriolaires. Plusieurs biens y ont été emportés. D'autres cas similaires ont été signalés dans des maisons d'habitation et des commerces. Face à cette recrudescence du banditisme, les chefs des quartiers appellent à un renforcement des mesures de sécurité en fait de protéger la population et ses biens. De son côté, les bourgmestres de la commune rurale d'Ouicha appellent la population à collaborer avec les services de sécurité pour mettre fin à cette insécurité. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais encourage l'esprit d'entreprise pour briser le cycle du chômage, surtout chez des jeunes universitaires. Elle vient d'annoncer le lancement d'un concours d'entrepreneuriat le 30 juin prochain pour lutter contre le chômage des jeunes. Cette structure a fait cette annonce mardi et mercredi dernier aux étudiants réunis dans les amphithéâtres de l'université et de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. Selon selon l'ANADEC, les meilleurs projets seront financés par le gouvernement. À Kisangani, les étudiants de l'UNIKIS, mais aussi de l'IEC, se mobilisent déjà pour transformer leurs idées en entreprise. L'un d'eux, une jeune étudiante, espère passer de l'informel à une entreprise de restauration structurée. Reportage.
À l'UNIKIS comme à l'IEC, l'heure est au projet. Les étudiants voient dans ces concours une chance de quitter la précarité. Parmi eux, une jeune femme espère passer de l'informel à une entreprise de restauration structurée.
Je suis dans les petits business de l'Iboké et je livre aussi. Oui, j'aimerais bien avoir un financement pour viser beaucoup plus grand. Puisque je l'ai fait juste à domicile, en ligne, je voudrais qu'il soit aussi physique.
Le secteur culturel est aussi représenté. Ce futur cinéaste est mis sur ce soutien pour lancer sa production.
Où les artistes vraiment ils peuvent s'exprimer derrière le biais de cinéma avec des technologies de pointe soutenues par leurs œuvres.
Le message de l'ANADEC est clair. Personne n'est exclu, y compris des étudiants vivant avec handicap. Le gouvernement promet de financer les dossiers les plus solides pour créer des emplois. Le DG de l'ANADEC, Godefroy Kizabo, insiste sur l'autonomie des diplômés.
Nos enfants qui ont des diplômes, qui ont des potentialités, qui sont intelligents, avoir les diplômes et puis après, j'ai été à l'université. Je rentre à la maison, je ne fais rien. On en a assez. C'est pourquoi mettons en place tous les moyens pour résorber cette affaire de chômage de jeunes.
À Kisangani, le rendez-vous est pris. Les candidats ont désormais quelques semaines pour affiner leur dossier avant le coup d'envoi officiel. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Retour à nouveau à Kinshasa. Des jeunes se lancent dans la photographie de rue et se font appeler gratteurs. Ils sont de plus en plus visibles aux abords de grands lieux publics. Ils séduisent une clientèle jeune. Leur objectif est clair, proposer des photos souvent à moindre coût dans des endroits stratégiques où la demande est forte, notamment les week-ends, un phénomène en pleine expansion qui transforme les contours du métier de photographe dans la capitale de la RDC. Reportage signé Elache Mbalou.
À l'Université Pédagogique Nationale, à la gare centrale, au Palais du Peuple ou ailleurs, difficile de passer à côté des gratteurs. Ces jeunes, si smartphone à main, sillonnent les lieux très fréquentés pour proposer des séances photos. Une activité née dans les rues de Kinshasa avec l'usage des téléphones comme l'iPhone, simple ou pro. Ils capturent des images qu'ils livrent rapidement à leurs clients, souvent via WhatsApp, à des prix généralement abordables.
On utilise surtout les iPhone 13. Ces travaux rapportent de l'argent si tu as déjà des propres contacts, surtout les samedis et dimanches. Les gens connaissent déjà l'emplacement ici à l'UPEN. La plupart du temps, ce sont les jeunes qui viennent pour des séances photo. Les parents ainsi que les étudiants de l'UPEN viennent avant ou après les cours pour faire des séances photo.
Face à cette nouvelle tendance, les photographes classiques adoptent une position mesurée. Pour eux, il ne s'agit pas forcément d'une concurrence directe, mais plutôt d'une évolution du marché.
Aujourd'hui, les créateurs, ceux qui prennent des photos avec leur smartphone, ont effectivement des clients et c'est normal parce que c'est la montre qu'il y a une demande. Je ne vois pas ça comme une concurrence directe parce qu'ils ne visent pas forcément le même type de clients que moi.
Entre innovation et débrouillardise dans la capitale congolaise, ils incarnent une nouvelle forme du métier des photographes à l'ère du smartphone.
Actualité internationale.
Donald Trump, le président américain, a estimé vendredi 1er mai que les hostilités entre l'Iran étaient terminées dans une lettre envoyée au Congrès américain, affirmant ainsi se conformer à la loi qui exige que le président américain obtienne l'autorisation du Congrès pour prolonger un conflit au-delà de 60 jours. Si la trêve entre les États-Unis et l'Iran a été prolongée sine die, les deux camps n'arrivent toujours pas à s'entendre pour reprendre leurs négociations. Après une première session infructueuse le 11 avril dernier au Pakistan, le président américain s'est dit vendredi pas satisfait de la dernière proposition iranienne destinée à relancer les négociations 2 mois après le début de la guerre. Entre-temps, l'armée israélienne continue de bombarder le sud du Liban.
L'invité.
Le chanteur congolais Fally Ipupa commence tout à l'heure une série de 2 concerts d'affilée au Stade de France ce samedi et demain dimanche. Charlie Kadima, producteur mécène congolais qui s'apprête à publier son livre intitulé Fally Ipupa, la merveille de la musique congolaise, nous a rejoint pour évoquer cet artiste. On l'écoute au micro de Taki Akiwa.
Charlie Kadima, qu'est-ce que représentent ces productions pour Fally et pour les mélomanes?
Ces deux productions représentent beaucoup. Pour Fally, d'abord, cela représente un couronnement par rapport à ces débits difficiles que nous connaissons depuis sa commune natale de Bandal, et passer par tout le cheminement et atteindre ce niveau, c'est un couronnement. Et pour les mélomanes, cela représente une forme de victoire, une forme d'ascension de la musique congolaise, de la rumba congolaise. L'avoir amené à ce niveau, cela n'est pas arrivé depuis un siècle, moi je dirais. Parce que si nous voulons voir aujourd'hui, depuis que notre rumba existe, depuis Wendo, en passant par Grand Calais, Taboulay, Franco, Zaïko, Papa Wemba, Koffi Olomide, Wenge, c'est-à-dire Jibé Piana, Weranson, et toutes les sept générations de la rumba actuelle, nous pouvons compter au minimum 97-99 ans où nous n'avons pas atteint cet exploit. Moi, j'appellerais cela un combat du siècle, parce qu'il s'agit de la boxe et une finale de la Coupe du Monde, parce qu'il s'agit du football. Donc, les mélomanes, pour eux, c'est vraiment une victoire et une forme d'ascension de la rumba congolaise.
Vous êtes sur place à Paris où se tiendra ces deux concerts de Fally. Quelle est l'ambiance qui règne sur place à quelques heures de cet événement?
Je peux t'assurer que l'ambiance est vraiment très très élevée parce que je retrouve les délégations qui viennent de l'Angleterre, du Canada, de la Belgique à côté, de la Suisse, de l'Espagne, de Kinshasa, de Brazzaville, de Cameroun, du Sénégal. J'ai rencontré des gens qui m'ont reconnu personnellement, qui me disaient d'où ils venaient, et je me dis, mais tout le monde entier est à Paris aujourd'hui pour cet événement. L'ambiance est totale.
Avez-vous déjà rencontré Fally? Si oui, quel est son moral?
Je n'ai pas encore vu Fally. Fally s'est interné, mais j'ai eu à parler avec lui au téléphone, par texto. Le moral est au zénith. Il est très confiant et sûr de lui. Et en tout cas, il nous a promis que le spectacle sera total, mais le spectacle sera différent les deux jours. Il me rassure que tout va bien.
Charlie Kadima, la date du 2 mai est déjà complète en termes des ventes des tickets du concert de Fally au Stade de France. Mais pour les dimanches 3 mai, il y a encore des places disponibles. Comment les staff de Fally gèrent-ils cette situation?
Pour la date du 2 mai, le spectacle affiche déjà complète. Et pour le 3 mai, selon mes enquêtes personnelles, il ne reste que 11 carrés qui sont encore disponibles. Et le staff de Fally Poupa, de la manière dont il gère la situation, je crois que avant la fin de la soirée de samedi, le 3 mai affichera complète parce que la demande est encore énorme. De moi-même, j'ai reçu des appels de gens qui voulaient encore de billets et qui cherchaient à en avoir. Le staff de Fally Poupa gère tout ce qu'il faut pour que tout aille de mieux.
Fally a reçu les encouragements de certains artistes congolais pour ses concerts, notamment ceux des héritiers Watanabe, Ferregola et Inos B. Comment l'entourage de Fally a joué ces messages?
Il y a des artistes congolais tels que vous l'avez énuméré, Héritier Watanabe, Ferregola et Inos B, qui ont encouragé l'artiste Fally Poupa pour ces deux jours de spectacle au Stade de France à Paris. Ben, je dirais tout de suite que l'entourage de Fally Poupa critique ce qu'il peut critiquer, apprécie ce qu'il peut apprécier. Il pense que d'autres personnes profitent de la situation pour pouvoir encourager Fally parce que ils ont des prestations en vue, qui pensent que cela peut encore attirer la sympathie de Warriors, de Fally Poupa, pour arriver à leur apporter un soutien lors de leurs événements.
Charlie Kadima, je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit un livre sur Fally Poupa. Ça sort quand déjà?
J'ai écrit effectivement un livre qui s'intitule Fally Poupa, la merveille de la musique congolaise. Je pensais qu'il pouvait sortir avant les deux dates du 2 et du 3, mais les corrections reviennent encore et que l'on me demande encore de fignoler. Donc je suis encore au travail, mais ce que je peux rassurer à ce qui nous suivent en ce moment, ce livre verra le jour, nous l'aurons avant la fin de l'année 2026.
Merci beaucoup Charlie Kadima.
Fin de ce journal, merci à Pierre Diassino, à Jean Gandou et à Richard Jean Kamonga pour leur accompagnement éditorial. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée.